À présent,
Frédéric Born.
À présent, ce soir, l'après-coup de la pandémie a déjà commencé avec Catherine Tourette-Turgis et François Ansermet. À présent, ce soir, l'après-coup de la pandémie a déjà commencé. On sait que la pandémie et le confinement ont des effets non seulement médicaux et sociaux, mais psychiques, mais on croit qu'ils viennent toujours après, comme un après-coup secondaire temporellement et dans son importance. Peut-être cet après-coup psychique est-il au contraire contemporain de l'événement. Il a déjà commencé, il faut en parler dès à présent. Nous le faisons avec Catherine Tourette-Turgis, professeure d'éducation thérapeutique à Sorbonne Université, présidente de l'Université des Patients, et avec François Ansermet, psychanalyste, professeur honoraire de psychiatrie de l'enfant et de adolescent à l'Université de Genève et membre du Comité consultatif national d'éthique. Bonsoir à vous deux, Catherine Tourette-Turgis et François Ansermet. Ne vous étonnez pas si je m'adresse à vous l'un après l'autre. Nous sommes un peu à distance, en partie à distance. Je suis sur place et vous êtes chez vous. Et on va essayer d'avoir une vraie conversation à trois malgré cet obstacle technique. Et je vais d'abord m'adresser à François Ansermet, qui est à Lausanne, je pense, même plutôt qu'à Genève. François Ansermet, merci d'être là ce soir. J'introduisais cette discussion en proposant l'idée que on pense toujours que l'effet psychique d'un événement, et même d'un événement aussi grave que la pandémie, l'effet psychique, on le prend au sérieux, mais après, on le met quand même comme quelque chose de secondaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi est-ce qu'on, et si vous êtes d'accord, pourquoi est-ce que, comme ça, on a quand même toujours tendance à mettre le psychique après ce qui paraît plus sérieux, la maladie elle-même, les effets sociaux? Pourquoi cette minorisation de la dimension psychique des événements, François Ansermet?
Ça dépend, évidemment, comment chacun vit la pandémie. On pourrait dire, dans une certaine mesure, à chacun sa pandémie. Et une patiente me disait tout à l'heure, je crois que j'ose la citer, que cette pandémie, elle la vit comme une période sans après. Ça m'a frappé par rapport au thème de l'émission, sans après. C'est-à-dire comme si il n'y aurait pas d'après-coup. Et au fond, beaucoup de ce que je vis dans l'expérience clinique met en jeu l'idée d'un instant arrêté, un instant figé, un instant dilaté, un instant qui ne passe pas, un instant statique, comme un marécage de l'instant présent, comme un gouffre paralysant, c'est-à-dire un temps devenu immobile, sur le seuil du temps, et qu'au fond, certains vivent ça comme un vélo à l'arrêt, et quand un vélo s'arrête, il tombe.
Mais alors justement, François...
Frédéric Worms...
Allez-y.
Oui.
Justement, je voulais vous demander...
Je pense qu'il y a un télescopage, là on se télescope d'ailleurs par le fait qu'on parle à distance, mais il y a un télescopage entre l'après-coup qui est collisionné avec le coup de l'épidémie.
Mais alors justement quand même, François Ansermet, ça prouve...
Une coïncidence entre le coup et l'après-coup.
Ça prouve justement le fait que pour certains patients, certains sujets qui vivent l'événement temporellement justement, l'après-coup les marque déjà. Quand on dit il n'y a pas d'après, c'est quand même déjà, pour vous, est-ce que c'est quand même déjà, sans aller trop loin, mais déjà un signe clinique, quelque chose comme un danger psychique au fond qui affecte ces sujets? Quand il n'y a pas d'après, c'est quand même effrayant, un peu angoissant, François Ansermet.
Bien sûr, c'est angoissant, et c'est d'ailleurs dire qu'il n'y a pas d'après, c'est un signe de l'angoisse. C'est au fond l'idée que quelque chose a eu lieu qui sidère. C'est une sidération. Finalement, c'est une sorte d'abolition du temps. C'est-à-dire dire que l'après est déjà maintenant, c'est aussi dire que le temps s'est arrêté. Qu'on est dans un instant figé, dans un instant éternisé, dans un instant qui n'a plus les valeurs de l'instant.
Alors c'est paradoxal évidemment, puisque la pandémie a aussi d'autres caractéristiques temporelles, comme son incertitude, son changement permanent, son évolution. Catherine Tourette-Turgis, de votre côté, dans vos articles récents concernant l'accompagnement psychosocial de la pandémie, la prise au sérieux de cette dimension psychique, vous insistez, il me semble en tout cas, sur cette nécessité justement qu'il ait lieu tout de suite, qu'il n'ait pas lieu après, qu'il ait lieu. Il y a une certaine urgence, on met tout le temps l'urgence du côté de l'ambulance, des soignants qui arrivent, et c'est important évidemment avec leur équipement pour empêcher la mort, mais il y a aussi une urgence psychique, psychosociale, Catherine Tourette-Turgis.
Oui, Frédéric, bon, c'est exactement ça. En fait, moi j'ai publié avant le confinement, ouais, le fait que le confinement allait avoir un impact social et qu'il fallait tout de suite mettre en place des dispositifs. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, il y avait un avant, puisqu'on on disposait déjà dans le Lancet, ce qui est quand même pas n'importe quelle revue, de par exemple les résultats de l'enquête chinoise, conduite en population générale auprès de plus de 52 000 personnes, et on avait des taux donc d'anxiété, de dépression de 33% et de 5,7%
dans la population chinoise
de détresse sévère. Et puis après, on va s'apercevoir tout au long de l'épidémie que globalement, quels que soient les pays, on va toujours être entre 20 et 30%. Et d'ailleurs, très récemment, on est monté à 15%, puisqu'après l'été, il y a eu une espèce de recovery, enfin une espèce de rémission. Et pourquoi on est toujours avant-après ? Moi, par exemple, je travaille dans le cancer. Dans le cancer, dès que vous avez un arrêt des traitements, c'est-à-dire que vous avez donc un diagnostic de rémission, que ça s'arrête, eh bien, c'est là qu'il faut commencer à se rétablir. Et le rétablissement, ça dure encore 2 ans, 3 ans, etc. Donc, en fait, c'est avant et après, c'est ce que disait François Sermet, ce que vous dites vous, Frédéric Vorse, c'est en permanence, parce qu'il y avait un avant, il y a eu d'autres épidémies. Moi, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'épidémie de sida. Donc on savait bien d'emblée, moi je me souviens dès les années 85, d'être allé au ministère et d'avoir dit non, 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 ce ne sera pas qu'une réponse médicale qu'il faudra. C'est une épidémie où il y aura une deuxième épidémie qui est l'épidémie des réactions psychosociales à la première. C'est-à-dire que c'est tout de suite qu'il faut prendre les choses.
C'est ça, mais alors justement, voilà, parce que vous dites que c'est une deuxième épidémie, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit qu'il y aura une troisième vague, et la troisième vague sera mentale, sera psychologique, sera psychique. Là, c'est vrai que c'est important d'en parler comme ça, au même niveau de gravité que les autres, mais enfin, Catherine Tourette-Turgis, vous venez justement de dire, il ne faut pas pour autant dire une deuxième au sens d'un après, comme si on pouvait attendre. Il me semble que vous montrez aussi qu'il y a une urgence au sens où notre cerveau même, notre psychisme doit être tout de suite pris en charge, sinon la pathologie risque d'être irréversible, de le hanter toute sa vie, tout autant qu'une cicatrice sur le corps.
C'est-à-dire qu'en fait, d'emblée, il faut s'orienter vers le rétablissement. Et on voit d'ailleurs que dans les catastrophes naturelles, c'est plutôt mes travaux de psychosociologie, on règle la crise sanitaire, on règle la crise économique, et après on a ce qu'on appelle la crise de l'impact humain. Et les impacts humains, ça peut durer 2 ans à 3 ans, bien après que les deux autres crises aient été résolues.
Eh bien, quand vous dites justement bien après, cet après, donc il faut s'en occuper tout de suite. François Enfermé, est-ce que c'est ce que vous faites dans votre clinique aussi, quand vous recevez les patients, au fond, d'abord, est-ce que finalement il y a, si j'ose dire, des nouveaux patients, des patients qui justement souffrent de cette situation, et est-ce que vous les incitez à venir, à maintenir le lien, comme on fait ce soir à distance un petit peu, mais malgré tout, quelle que soit la façon, parce qu'il y a justement vous ressentez cette urgence du soin psychique, au moins aussi urgent que tous les autres ?
Absolument, je partage tout à fait la vision de ce que vient d'énoncer Catherine Tourette-Turgis. Il y a une urgence, parce que c'est une situation de crise, ça se joue vraiment dans le moment où ça surgit, et que par rapport à ce surgissement, on est un peu dans la même situation qu'un traumatisme. La psychanalyse pense le traumatisme comme traumatisme après coup. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le traumatisme, mais dans le traumatisme vient s'engouffrer tout ce qui était en amont. Mmh. Et qu'au fond, il y a un effet de loupe virale qui révèle les souffrances, qui augmente les difficultés, qui au fond propage chez le sujet une sidération, une pétrification, quelque chose. Donc il s'agit de le prendre dans le moment où ça se passe. Après, vous posez, Frédéric Worms, une question complexe, parce que ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'après-coup du traumatisme. Parce que l'après-coup, peut-être je peux dire une chose un peu paradoxale, en clinique, avec l'enfant qui a vécu un traumatisme, ou l'enfant malade, l'enfant cancéreux, comme citait Catherine Tourette-Turgis, des fois c'est un deuxième événement, quelque chose de tout à fait différent, qui peut révéler le traumatisme, et même on peut s'appuyer sur ce deuxième événement pour sortir du traumatisme.
Qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple,
plusieurs temps du traumatisme.
Quel est le deuxième événement auquel vous faites allusion ici, par exemple?
Non, alors bien sûr, là, vous Frédéric Worms, vous faisiez référence à une nouvelle vague, voilà. et un nouveau confinement, comme effectivement le deuxième confinement partiel, mais enfin quand même là, a été le traumatisme après coup du premier confinement, avec des fois la cascade des effets du traumatisme, qui est plus évidente dans le deuxième temps que dans le premier temps. Parce que le premier temps s'accompagne de sidération, de pétrification qui peut même être sans symptômes. Des enfants qui ont vécu des traumatismes majeurs, qui ont, dans un accident par exemple, qui ont perdu père, mère, frère, peuvent ne présenter aucun symptôme. Les premiers patients que j'ai vus de ce type, on m'a appelé parce qu'ils n'avaient aucun symptôme. Par contre, le deuxième événement, qui peut être la récidive du confinement, le retour du... mais aussi un événement autre, un événement lié à l'inégalité, la pauvreté, peut réveiller une cascade traumatique. Donc je dirais qu'il y a plusieurs temps au traumatisme, un premier qui est la sidération, un deuxième qui est tous ces phénomènes d'après-coup, mais que l'enjeu c'est aussi la sortie du traumatisme, qui se joue dès l'entrée dans le traumatisme.
D'accord. Et
il faut la penser dès l'entrée dans le traumatisme.
Vous venez de parler de l'enfant, vous avez enseigné et pratiqué la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et Catherine Tourette-Turgis travaille sur l'éducation thérapeutique, on reviendra sur cette dimension, mais François Ansermet, je voudrais insister sur un point très important dans ce que vous avez dit. Vous dites, au fond, il y a un danger dans les traumatismes qui se répètent, mais il y a peut-être aussi, entre les deux, un espace pour que la vie du sujet, finalement, réapparaisse, réémerge, même sous une forme blessée, brisée, mais au moins, c'est mieux que le silence total, c'est mieux que ce que vous appeliez, justement, avec précision, la sidération.
Absolument. Frédéric Worms, ça me paraît... paradoxal dans une certaine mesure.
Bah oui, parce que le deuxième coup, on a envie d'y échapper, mais c'est vrai que...
On a envie d'y échapper, mais au fond, on peut se servir du deuxième coup pour sortir du premier. C'est-à-dire que le fait qu'un traumatisme, peut-être dans le premier temps, fige complètement la psyché du sujet, peut-être dans le deuxième temps, il peut apparaître symptomatique, il peut apparaître avec une certaine gravité, mais c'est aussi le traitement imaginaire et symbolique du réel mis en jeu par le traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'issue aussi.
Ce qui est intéressant, là aussi, dans ce que vous dites, c'est la façon dont vous le rencontrez dans une clinique individuelle. Catherine Tourette-Turgis, j'ai l'impression que de votre côté, vous menez des enquêtes avec les méthodes des sciences sociales, de la psychologie et de la sociologie, de la réflexion sur l'éducation thérapeutique. Vous en avez publié plusieurs. Vous insistez aussi sur l'effet de l'impact de la pandémie et du confinement qui sont inséparables sur les jeunes. Est-ce que vous observez, avec cette autre méthode, un petit peu vous avez le même genre d'impression, vous observez aussi cet effet de la répétition, cet effet paradoxal du temps?
Alors, Pour reprendre ce que disait excusez-moi, François Enfermé, puisque vous disiez aussi Frédéric Worms, moi j'ai fait un tout petit peu dans l'autre sens, mais on va voir comment justement ce sont des compléments. J'ai travaillé sur l'expérience vécue du confinement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décomposé un petit peu pour me mettre à l'écoute de la population générale, puisque moi, mon patient, c'est la population générale. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier que dans les épidémies, on a un patient de première importance, c'est la population générale, puisqu'il faut éviter qu'elle tombe malade, soit d'ailleurs du virus, soit justement de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire du traumatisme de la situation.
Alors vous allez nous dire comment on soigne la population générale comme patient, c'est une image très forte.
C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que nous sommes allés dans des mairies, et donc j'ai créé un petit outil, parce que je me disais, le confinement, je l'ai décomposé en dimensions. Alors j'ai pris la dimension professionnelle du confinement, la dimension économique, la dimension scolaire, la dimension professionnelle, la dimension conjugale, familiale, sexuelle, etc. Ouais. Et donc, du coup, ça permettait, quand les gens venaient, j'avais fait un petit score de 0 à 10, ils s'auto-évaluaient, on regardait chaque dimension. Et là, on voyait, par exemple, je ne sais pas, moi, que telle personne, une femme, elle dit, ben moi, oui, ben, j'étais en conflit sans arrêt entre deux dimensions, c'est-à-dire à la fois, je voulais sauver ma dimension professionnelle, parce que je travaillais à la maison, mais je voulais aussi sauver la dimension familiale et puis la dimension scolaire. Donc, c'est vrai qu'à un moment, j'ai pris une option, j'ai lâché un peu sur le scolaire. Et puis, le mois d'après, j'ai lâché un peu sur le professionnel. Et le fait que les personnes pouvaient se réapproprier, et donc, elles avaient l'impression d'être des sujets, d'avoir fait des choix, et donc, elles n'avaient pas rien fait, et de voir que leur dimension, eh bien, elles pouvaient décider qu'elles allaient les renforcer sur un point ou sur un autre. Et donc, d'emblée, si vous voulez, là, la réponse, je crois, c'est éviter absolument le silence, débriefer, faire des groupes de parole, des groupes dans la population générale, par tous les moyens dont on dispose, des lignes d'écoute, etc., pour éviter que ce patient, qui est la population générale, ne devienne malade.
C'est très intéressant la manière dont l'analogie, dont vous faites une analogie entre le travail de l'analyse individuelle avec un patient qui parle devant un thérapeute, et puis cette analyse dont vous proposez des outils pour que les patients de la population générale, comme vous dites, on va y revenir, analysent leur pratique, analysent leur expérience plutôt. C'est-à-dire, au fond, vous les aidez à diviser ce bloc qui pourrait être totalement paralysant, ce bloc d'expérience un peu qui définit toujours un traumatisme, Catherine Thorette-Turgis.
En fait, ce que j'essaye de promouvoir comme action citoyenne, d'accompagnement de la population générale, c'est de la mise en récit, de la narrativité. Par rapport à l'épidémie de sida, moi ce qui m'a frappé, c'est que l'épidémie de Covid, c'est une épidémie froide. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a pas de visage. Dans le VIH sida, mais on avait sans arrêt des personnes qui venaient même, je me souviens, à la télévision dans les années 80.
Qui faisaient intrusion, qui faisaient des actions militantes.
Actions militantes, mais aussi des malades qui venaient parler, donc on pouvait mettre des mots. Là, c'est une épidémie où il n'y a pas, ce n'est pas porté, elle n'est pas charnue, et elle n'est même pas corporelle au sens où on viendrait expliquer. La population générale, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est aussi les enfants.
La parole dont vous regrettez l'absence, Catherine Thorette-Turgis, c'est la parole justement des patients. Il y a beaucoup de paroles sur l'épidémie. Il y a la parole officielle, il y a la parole politique, il y a la parole des experts. Il y a beaucoup de paroles, mais vous dites, là, on n'entend pas assez les gens dont vous dites qu'ils sont dans la population générale, mais disons les patients, ceux qui subissent à titre subjectif, personnel au fond, l'épidémie et l'épreuve en général.
On n'entend pas assez les patients, on n'entend pas assez les proches des patients, parce que les proches de patients, les proches de personnes décédées qui ont été privées de deuil même au sens de processus psychique, puisque le deuil, ça commence souvent à l'hôpital, il y a les soignants autour, il y a un partage, il y a une préparation à la séparation, là, il n'y a rien eu. Donc on voit bien là, on a aussi, je me souviens, moi, je suis aussi membre de l'Association américaine de psychologie, parce que j'ai vécu 10 ans en Californie, on a reçu un papier très rapidement au mois d'avril, en disant, ceux qui parmi vous travailler sur les deuils, prévoyez, ça c'est très américain, mais une période de 6 à 12 mois de plus long. Ça sera des deuils complexes, complexes grief, et ils seront plus longs. pas de... Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. On a des réponses, il faut s'en saisir, les partager, et cette mise en parole, cette mise en récit, moi, c'est vraiment ce qui... Donc moi, je fais des groupes de mise en récit, en fait. Voilà, le psychosocial, ça sert à ça, d'ailleurs.
Donc on savait avant, effectivement, comment tout ça allait se passer. Malgré tout, quand ça survient, on a un temps de retard, on a préparé des plans, des masques, on a aussi préparé des thérapeutes pour parler, pour accompagner les deuils. On va y revenir dans un instant avec vous, François Ansermet, mais si vous êtes d'accord, d'abord un peu de musique.
Muss es sein, es muss sein, cela doit-il être, cela est, Ludwig van Beethoven. Est-ce que vous savez, depuis voilà bientôt 30 ans, depuis voilà bientôt 30 ans, depuis voilà bientôt 10 jours, depuis voilà bientôt 10 jours, depuis voilà bientôt 5 ans, depuis voilà bientôt 9 jours, depuis que je traîne ma course, au creux des nuits comme un forçat, au creux des nuits comme un forçat, à patibuler mon écorce, à patibuler mon écorce, vous êtes sage et vous
à présent.
Frédéric Borne.
Ludwig. Ludwig.
À présent, ce soir, l'après-coup de la pandémie a déjà commencé avec Catherine Tourette-Turgis et François Ansermet. François Ansermet qui nous propose cette rage de Léo Ferré évoquant lui-même Ludwig van Beethoven et plutôt son sens de la fatalité. François Ansermet, les Beethoven qui disaient « Muss es sein, est-ce que ça doit être ?»« Es muss sein, cela doit être ?» Et puis voilà que vous nous en proposez une version inédite, rageuse, Léo Ferré au Palais des Congrès. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez que c'est essentiel aujourd'hui d'écouter ça, François Ansermet?
Écoutez, Frédéric Borne, en prenant de nouveau Ferré, c'est une intensité tout à fait particulière, une rage, comme vous dites. En fait, Es muss sein, c'est une dédicace de Beethoven dans le dernier quatuor à cordes, le quatuor numéro 16, opus 135, qu'il a composé en 1826. Qu'il a publié en 1827, mais il est mort lui-même le 26 mars 1827, donc ça a été produit après sa mort, et il a mis comme sous-titre à ce quatuor la décision difficilement prise. Mm-hmm. Et je trouvais que « muss es sein », est-ce que ça doit être, « es muss sein », ça doit être, touche beaucoup cette question de la politique des décisions, de la décision subjective, de la décision de chacun dans sa propre vie, de savoir s'il sort, s'il reste dedans, s'il attend, s'il respecte ou s'il respecte pas ce qui a été prescrit. Donc, au fond, une tension extrême, une incertitude aussi, une inquiétude immanente qui ressort de tant de l'œuvre de Beethoven, sauf que Beethoven, lui, c'est presque joyeux. Enfin, il y a quelque chose de sublime qui transforme tout à fait ce questionnement, mais au fond, là, on a dans ce dilemme, muss es sein, es muss sein, toute l'ambivalence qui habite tant le collectif que le plus intime de chacun. Enfin, je crois que par rapport à ce qu'on discutait juste avant avec Catherine Tourette-Turgis, c'était très intéressant parce qu'on peut se dire ce qui est dit de son patient qui est le collectif ou ce qui est dit de mon patient qui est le un par un de la clinique, ouais. On retrouve presque les mêmes dilemmes.
Alors on va revenir sur cette intersection de l'intime et du collectif, des patients individuels et de la population générale. Encore un mot quand même, François Ansermet, sur l'interprétation que vous donnez de cet extraordinaire dialogue entre Beethoven et Léo Ferré. On a l'impression quand même que l'essentiel déjà chez Beethoven, c'est de poser la question. Muss es sein, est-ce que c'est vraiment nécessaire, par exemple, en effet, que le mal nous tombe dessus, que les décisions politiques nous contraignent, qu'il faille prendre soin de la santé, et ensuite qu'il réponde « es muss sein », c'est-à-dire l'acceptation. Finalement, Léo Ferré a raison, l'acceptation n'est pas passive, l'acceptation c'est aussi un geste fort, l'acceptation de la situation, ça peut être une révolte, il y a une révolte dans le fait de dire « oui » parfois, François Ansermet.
Absolument, oui, cette révolte elle est nécessaire pour sortir de la situation, mm-hmm. Et que effectivement c'est toute la complexité entre l'intime et le collectif, parce que la révolte intime qui fait que le sujet se réveille et fait quelque chose, mm-hmm. de ce qui lui arrive est très différente de la révolte collective qui peut être aussi une autre type d'épidémie, une épidémie d'ambivalence, une épidémie de peur, une épidémie de déni, une épidémie de défiance, une épidémie de crise de la solidarité, voire une épidémie de haine. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à contraster dans la suite de notre discussion entre ce qui est intime, mm-hmm. et ce qui est collectif, et comment les deux peuvent se nourrir ou au contraire entrer en contradiction.
Alors, Catherine Tourette-Turgis, évidemment, je vais vous demander ce que vous en pensez. On parle beaucoup aujourd'hui de l'acceptabilité, par exemple, hein, des mesures de confinement. Et là, on voit une acceptation. Et en effet, dans les publics, entre l'intime et le collectif, comme disait François Ansermet, il y a les deux. Il y a le refus, la révolte, l'acceptation, rarement comme Beethoven ou Léo Ferré, mais quand même. Et puis, il y a l'entre-deux, le silence. Comment est-ce que vous voyez ce nouage, au fond, de l'acceptation individuelle et politique, Catherine Tourette-Turgis?
Je vais rebondir sur votre question, Frédéric Worms, mais je vais surtout reprendre cette idée qui est absolument effectivement brillante de nos cliniques complémentaires, de la population générale et du sujet. Alors moi, je vais juste vous parler avant de voir si cette population générale peut se protéger. Je vais vous parler de mon patient qui est la population générale.
Alors, parlez-nous de cette personne-là.
Eh bien, oui. Ben, c'est un patient, la population générale. Augmentation de 10% d'anxiolytique en population générale. Mmh. Augmentation de 15% de consommation d'alcool. Augmentation de 33% de violence domestique pendant le confinement. Hein. Mmh. Augmentation de 20% de maltraitance à enfants. Donc, on voit bien qu'on a une population vers laquelle il faut courir
tout
de suite.
Bien. Il ne va pas très bien, ce patient-là, la population.
Ce patient-là ne va pas très bien, mais si vous regardez bien, il a une ligne qui s'appelle anxiété, dépression, et il a troubles de sommeil. Ce qui est intéressant, c'est que les troubles de sommeil sont dans la population au mois de mars, ils sont quasi les mêmes encore en octobre. Et si vous regardez 19-21 octobre, on prend 5 points sur la séroprévalence de la dépression. On passe de 10,5% à 15,5%. Ça veut dire que cette population, si on veut faire de la prévention, il faut le sculpter en permanence. Mmh. On voit bien que dès qu'elle commençait à se remettre, notamment vers septembre, octobre, l'annonce, une prédiction comme ça de couvre-feu, la crise économique, hop, elle rechute. Donc, on ne peut pas demander à la population de faire tous les efforts de prévention si on ne prend pas soin d'elle. Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a des facteurs, des déterminants, et ça, on le sait depuis les autres épidémies. Mmh. Une prévention, il faut un degré d'acceptabilité de la règle. Bon, c'est vrai qu'on n'est qu'à 45-55%, et en même temps, on a quand même des taux de prévention élevés. Mais ce qui est nécessaire, et là c'est peut-être une autre casquette qui est la casquette éducation thérapeutique, eh bien c'est de faire de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire par exemple sur le masque ou dans toute prévention, c'est que la personne adopte un moyen de prévention si elle sent qu'elle va être capable de le faire, si elle a envie de le faire et si elle a confiance. Et si aussi peut-être de temps en temps on l'encourage, on la félicite, etc. Eh bien, c'est tout ce qui nous reste à faire. Je veux dire, dans le VIH-SIDA, si ça avait suffi de dire « mettez un préservatif », on n'aurait pas eu 20 ans d'épidémie.
Oui, c'est tout le problème de ce que vous appelez.